L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, le Canada accusé de génocide envers les femmes autochtones et ça dure depuis plusieurs dizaines d'années. La Suisse, qui se prépare à une grève des femmes le 14 juin contre les inégalités salariales et les féminicides. En Belgique, l'inquiétude du délégué général aux droits de l'enfant concernant le sort des enfants belges de djihadistes. Au Sénégal, le frère du président, accusé de corruption, la BBC qui a fait l'enquête, affirme détenir des preuves. Enfin en France, les cérémonies, 75 ans après le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie, les présidents Trump et Macron ont tenté d'aplanir leurs divergences sur l'actualité. Voilà pour le menu francophone, bienvenue à tous. Au Canada, Sébastien Desrosiers, votre personnalité de la semaine est un journaliste. C'est d'ailleurs le seul francophone qui a couvert le débarquement de Normandie.
Oui, son nom est Marcel Ouimet, correspondant de guerre de Radio-Canada, aujourd'hui décédé. Le 6 juin, il y a 75 ans, il a sauté dans l'eau avec les soldats qui ont traversé la Manche, machine à écrire au bout des bras. Alors, pour des millions de Canadiens, ces reportages ont permis de saisir ce qui secouait l'Europe. Des reportages qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Or là, on lui rend hommage. Un journaliste français a reproduit dans un livre les lettres que Marcel Ouimet écrivait à sa femme depuis le front. Bernières-sur-Mer en Normandie prévoit également honorer sa mémoire, donc pour nous, un autre personnage important de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, on va y revenir dans un instant. En Afrique, Charles Tidrac, gros plan cette semaine sur François Compaoré, car la justice française a donné son feu vert à son extradition vers le Burkina Faso.
Oui, le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, mis en cause dans l'assassinat d'un célèbre journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998, cela avait fait scandale. L'affaire était restée en suspens jusqu'à l'arrestation de François Compaoré à Paris fin 2017. Le Burkina Faso le réclame et parle d'une victoire d'étape. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement français qui doit signer ou pas le décret d'extradition.
En France, c'est la conséquence directe des mauvais résultats de la droite aux européennes. La démission de Laurent Wauquiez cette semaine, le président du parti Les Républicains. Il ne sera resté que 18 mois à la tête du parti, un parti déjà miné par les divisions internes. Le nombre de militants à jour de cotisation a fondu comme neige au soleil. Et le pire est probablement à venir aux élections municipales l'an prochain en France. L'élection du futur président du parti Les Républicains en France est prévue en octobre prochain. Une personnalité a marqué l'actualité suisse cette semaine, Joël Marchetti, et c'est le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
Oui, Mike Pompeo a passé le week-end dernier en Suisse. Il s'agit de la première visite officielle d'un secrétaire d'État américain dans le pays depuis plus de 20 ans. Les relations entre la Suisse et les États-Unis connaissent actuellement un regain d'activité. Il y a 3 semaines à peine, le président de la Confédération, Uli Maurer, rencontrait Donald Trump à la Maison-Blanche. Au cœur de ces rencontres, il y a notamment la politique des bons offices diplomatiques de la Suisse. Par exemple, dans la crise iranienne, la Suisse représente les intérêts américains à Téhéran depuis 1980. Berne pourrait également représenter les intérêts américains au Venezuela, mais le président Maduro n'a pas encore donné son feu vert.
En Suisse, Joël Marchetti, on s'apprête aussi à vivre vendredi prochain la grève des femmes.
Et tout le monde en parle ici, d'autant que la grève en Suisse n'est pas du tout une pratique courante. Le 14 juin 1991, une première grève avait déjà impliqué 500 000 femmes à travers tout le pays, dans le but de faire appliquer l'article constitutionnel sur l'égalité hommes-femmes. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les revendications restent nombreuses. Selon l'Union syndicale suisse, les salaires des femmes sont encore près de 20% inférieurs à ceux des hommes. Mais il n'y a pas que ça. Selon une enquête représentative menée pour le compte d'Amnesty International, plus d'une femme sur 5 de plus de 16 ans, dit avoir été victime de violences sexuelles. Et puis en Suisse, la violence domestique fait un mort toutes les 2 semaines, la plupart du temps une femme. On pourrait citer encore de nombreux chiffres. En voici un dernier. Selon une étude de l'Institut BASS, une femme sur 7 perd son emploi en Suisse à cause de la maternité, par exemple à cause de l'impossibilité pour l'employeur de baisser le temps de travail. L'Union syndicale suisse a d'ailleurs placé la grève des femmes sous la devise « salaire, temps, respect ».
Et donc, vendredi prochain, on s'attend à quel type de mobilisation ?
Dans de nombreuses entreprises ou administrations publiques, les femmes se mobiliseront. On verra l'ampleur du mouvement. Il y a des femmes qui feront grève toute la journée pour participer aux manifestations organisées à travers tout le pays. D'autres s'arrêteront de travailler à 15h24, c'est-à-dire l'heure symbolique à partir de laquelle les femmes ne sont plus payées selon la statistique. D'autres encore disent adhérer à la cause, naturellement, mais ne soutiennent pas la méthode de la grève.
Et les hommes alors, vendredi, que font-ils ?
Bien sûr, ils sont nombreux à se montrer solidaires de cette cause. Il y a eu des appels aux pères pour soutenir les femmes qui manifesteront, par exemple en palliant le service réduit, voire la fermeture de certaines crèches, ou pour assurer le service minimum dans certains secteurs où les femmes sont fortement majoritaires. Il y a également eu des appels aux hommes pour qu'ils restent en retrait ce jour-là, afin que les femmes soient véritablement au centre de l'attention.
Le Canada est accusé de génocide envers les femmes autochtones. Sébastien Desrosiers, c'est ce que conclut une commission d'enquête publique.
Oui, le nom de cette commission, c'est Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Une commission d'enquête indépendante du gouvernement dont les travaux ont été lancés il y a un peu plus de 2 ans pour identifier les causes systémiques des violences dont sont victimes les femmes autochtones au pays, surreprésentées par exemple parmi les victimes de meurtres. Et le rapport rendu public cette semaine est sans appel. Les commissaires concluent à un génocide colonial. Pourquoi? Bien, elles accusent le Canada de comportements, et je cite, « qui reflètent une intention de détruire les peuples autochtones ». Parmi les exemples, ce qu'on appelle la rafle des années 60, où des milliers d'enfants ont été enlevés de leur communauté et placés en adoption dans des familles non autochtones, la stérilisation forcée des femmes autochtones et les pensionnats autochtones pour assimiler les jeunes des Premières Nations.
Et l'utilisation du mot génocide suscite un malaise.
Disons que plusieurs politiciens ont fait preuve de prudence. Certains ont refusé d'utiliser le terme pour ne pas, ont-ils dit, se lancer dans un débat de sémantique. L'ancien ministre conservateur des Affaires autochtones, Bernard Valcourt, est même allé jusqu'à dénoncer ce qu'il appelle un rapport propagandiste. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, après avoir évité l'utilisation du terme dans une première allocution, a dit finalement accepter les conclusions de l'enquête, notamment en ce qui a trait au génocide. Il a évoqué une tragédie qui dure depuis des générations. Il a promis un plan d'action d'ici quelques mois, mais avec les élections canadiennes prévues cet automne, aura-t-il le temps de faire quoi que ce soit? Ça reste à voir, mais il est du devoir de tous, selon les femmes autochtones, de faire ce devoir de mémoire.
En Belgique, Olivier Nederland, il est à nouveau question de l'avenir des enfants du djihad. D'ailleurs, le délégué général aux droits de l'enfant s'inquiète de leur avenir et il vient de l'écrire au Premier ministre.
Oui, le délégué Bernard De Vos estime qu'il faut faire revenir ses enfants en Belgique. Il est question au total d'environ 150 enfants de combattants belges qui ont, à un moment ou un autre, été dans des territoires en guerre. Une trentaine d'entre eux ont été localisés. Ils sont souvent très jeunes et ils vivent dans des camps en Syrie dans des conditions intenables.
On a notamment dans le camp de Halol, qui est un camp qui a été construit pour accueillir entre 7 et 10 000 personnes, il y a actuellement 78 000 personnes. Donc on peut imaginer les conditions sanitaires, les conditions de sécurité, toutes les conditions qui sont horribles dans ce camp, et des enfants.
Conditions sanitaires déplorables, pas d'école, pas d'encadrement, ces enfants sont avant tout des victimes. La question de leur avenir est évidemment fondamentale. Nous ne devons pas avoir peur d'eux, affirme Bernard De Vos, sauf peut-être, dit-il, si on décide précisément de ne pas les faire rentrer en Belgique.
C'est-à-dire qu'on pourrait avoir peur si on les laisse encore effectivement mariner, j'ai envie de dire, dans un contexte terriblement défavorable à leur éducation. On peut imaginer les conditions de vie sans alimentation, sans soins de santé, en contact permanent avec de la violence et de l'agressivité. Si on les laisse, et ils auront toujours le droit de revendiquer leur nationalité belge, si on les laisse et qu'on attend qu'ils reviennent à 15 ou 20 ans par leurs propres moyens, croyez-moi effectivement qu'en termes de sécurité, là on peut s'inquiéter.
Garantir la réinsertion de ces enfants dans notre société, c'est essentiel pour le délégué général et il demande aux autorités que tous les enfants, tous les mineurs de moins de 18 ans donc puissent revenir en Belgique. Ce n'est pas le cas pour l'instant.
Au Sénégal, Charlotte Hydrac, on ne parle plus que de ça cette semaine. Le frère du président est accusé d'avoir touché des pots de vin dans l'attribution de champs pétroliers et gaziers.
Tollé au sein de l'opposition et de la société civile qui demande au président Macky Sall de remettre à plat les contrats liés à la future exploitation du gaz et du pétrole au large du Sénégal. C'est une enquête de la BBC qui a relancé les soupçons de corruption à l'encontre de son frère. Aliou Sall travaillait en 2012 pour un homme d'affaires, Franck Timis.
Franck Timis a créé la société Petrotim. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour 2 grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur.
Nos confrères britanniques diffusent des documents confidentiels. Frank Timmis aurait versé 250 000 dollars sur le compte d'une société dirigée par Aliou Sall. L'intéressé se défend.
Quand on me dit vous avez vu les documents, ça veut dire que vous avez vu un document attestant que j'ai reçu un transfert de 250 000 dollars. C'est faux. En dehors de ce transfert imaginaire de 250 000 dollars, on ne me reproche que d'être le frère du président de la République.
Le groupe BP qui a racheté depuis les parts de Frank Timmis est également mis en cause. Des documents révèlent que le géant pétrolier devra verser à l'homme d'affaires quelque 10 milliards de dollars de redevances ces prochaines années. Un chiffre surréaliste selon BP qui assure qu'il n'y aura pas de manque à gagner pour l'État sénégalais.
Les commémorations en France du 75e anniversaire du débarquement allié. Donald Trump et Emmanuel Macron en tête de cortège sur les plages normandes. La présence aussi de quelques 500 vétérans, dont une cinquantaine qui ont directement participé à ce débarquement le 6 juin 1944. Cette opération Overlord devenue la mère des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Et les soldats d'ailleurs ne sont pas les seuls à avoir payé de leur vie cette victoire contre les nazis. On a aussi dénombré 20 000 morts parmi les civils normands. Et parmi les rescapés, ces deux sœurs, Edith et Thérèse, elles avaient 10 ans à l'époque, elles avaient dû fuir leur commune d'Hérouville en Normandie. Témoignage.
Ma mère me disait, regardez pas tous les morts qu'il y avait sur les bas côtés. Regardez pas. Oui, mais tout ce qu'elle nous disait de pas regarder, c'est là qu'on regardait. Hein. Il y avait un qui était calciné sur sa moto, il y en avait qui étaient allongés, les jambes écartées. Eh ben, on enjambait les morts. Et il y avait au moins 50 trous de bombes dans le champ d'à côté. Mais c'était immense les trous qu'il y avait et on retrouvait des morts. Hein.
Ces commémorations du D-Day en France ont aussi été l'occasion pour les deux présidents Trump et Macron de louer la force du lien qui unit les deux pays. Les deux présidents d'ailleurs ont fait de leur mieux pour mettre de côté leurs divergences sur la conduite des affaires du monde. Ils ont été rattrapés en conférence de presse par le dossier iranien, car si la France et les États-Unis sont tous les deux favorables à des discussions avec l'Iran, la méthode en revanche reste bien éloignée. Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.